De quoi ça parle les Berthiers ? En mai 1993, Erich Schmidt, que les médias présentèrent comme un homme devenu dépressif après un échec professionnel, avait retenu captifs 21 enfants et leur institutrice dans une classe d'école maternelle à Neuilly-sur-Seine. Pour éviter de faire entendre sa voix, il communiquait par l'entreprise de tapuscrits pré-rédigés signés HB, dans lesquels il menaçait, entre autres, de faire sauter des bâtons de dynamite et la bombe qu'il portait avec lui si le gouvernement ne lui cédait pas rapidement 100 millions de francs et un moyen de fuite. Il existe des archives vidéo bien connues montrant Nicolas Sarkozy, alors maire de Neuilly et ministre du Budget, prendre part aux négociations et obtenir l'échange d'enfants contre quelques sacs de billets ou une télé. La rédaction a téléphoné à quelques 130 Berthiers de Paris dont le numéro était dans l'annuaire pour leur soumettre un questionnaire. À partir de leurs réponses, a été constitué un rapport, une image statistique de ce qui reste de ces événements dans l'opinion publique et de la façon dont ils s'articulent à des expériences singulières comme à des croyances politiques. Nous parlons des Berthiers, portraits statistiques publiés aux questions théoriques, signé la rédaction, et nous sommes avec Christophe Hanna en direct par téléphone. Bonsoir à vous.
Bonsoir Dominique.
Alors, on va commencer par une petite lecture des Berthiers pour nous faire entendre ce style, cette langue, la manière dont sont écrits les Berthiers. Christophe Hanna.
Je vais lire l'ouverture du livre, en fait, hein, le début du premier portrait, le début du portrait d'Alain. Comme environ les deux tiers d'entre nous, Berthier de Paris, j'aurais pu être parmi ceux qui ont reçu une lettre signée HB pour Human Bomb, annonçant, environ une semaine avant qu'elle ait lieu, la prise d'otage de la maternelle de Neuilly-sur-Seine. Mais je suis le premier à qui on rappelle cela au cours d'une soirée du printemps 2010 et par téléphone. En 1993, j'habitais bien ici à Paris, comme tous les Berthiers destinataires. J'avais une adresse à mon nom et j'étais répertorié dans le Beautin, à la différence de David et d'une dizaine d'autres qui transitaient en recherche d'appartements, de Stéphane, qui était en Espagne pour ses études, de Cédric, qui était ailleurs pour une raison qu'il n'indique pas. Et je n'avais pas comme Timothée, Cécile, Sandrine, Valérian, seulement 2, 4, 7 ou 8 ans au moment des faits. Comme nous tous, à deux ou trois exceptions près, j'ignorais que le preneur d'otages avait agi de la sorte, prévenant de son action future en nous l'annonçant d'abord à nous, ou du moins à quelques-uns d'entre nous, Berthier avec un H. Mais je suis un des seuls qui, prenant au sérieux cette information et répondant à plus de 11 des 25 questions préparées, comme un peu plus de 30% d'entre nous, ne veut formuler aucune théorie personnelle sur les raisons d'un tel courrier, ni sur cette prise d'otage.
Merci Christophe Hanna. Pourquoi Erich Schmidt, le preneur d'otage, utilise des Berthiers de Paris pour les avertir en avance de ses actes à venir?
Bon, alors là, Dominique, vous me posez une question qui n'est pas vraiment une question, disons, d'écriture du livre, qui est plutôt une question concernant Erich Schmidt. On peut faire un certain nombre de supputations ou de spéculations sur cette stratégie, et ça tombe bien parce que ça peut aussi être, disons, analysé comme une sorte de dispositif d'écriture ou dispositif d'écriture de résistance ou, disons, ou d'action directe. On peut aussi le décrire comme ça. Vous voyez, Erich Schmidt se trouvait dans une situation un peu comparable à celle des gens qui occupent Wall Street et qui veulent communiquer des messages. C'est-à-dire qu'ils ont à faire passer des messages qui sont contre ceux qui disposent du pouvoir médiatique. Et ils ont donc à trouver des stratégies pour passer outre un mur médiatique, on pourra dire ça comme ça, ou disons une surveillance, un contrôle du discours. La stratégie d'Erich Schmidt a consisté à choisir des personnes à partir d'un panel tel que ces personnes pouvaient ne pas s'opposer à la diffusion de son information. Visiblement, il a dû chercher le groupe le plus neutre possible parmi les Français, le moins susceptible d'être inscrit dans des groupes idéologiques, disons. Et Berthier, c'est un nom qui n'est pas véritablement socialement caractérisé et qui permet comme ça d'étiqueter ou d'avoir accès à un ensemble de personnes dont quelques-uns pouvaient éventuellement agir comme passeurs de l'information. C'est donc une stratégie de diffusion d'un message contre-pouvoir, en quelque sorte, contre un gouvernement, lorsque on se trouve à, je dirais, à court de moyens, et dans une sorte de situation de méfiance quasi paranoïaque du contrôle et de la surveillance. Voilà.
Parce que c'est cette manière d'agir d'Eric Schmitt, c'est votre préalable à votre livre Les Berthiers. Vous reprenez à votre compte la manière d'agir d'Eric Schmitt. Vous contactez, alors lui a envoyé une lettre, vous c'est par téléphone, mais vous contactez un panel de Français que lui-même a déjà choisi par le nom Les Berthiers.
Oui, 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 exactement. J'avais besoin d'une certaine manière d'écrire un livre sur les Français et sur la manière dont les Français d'aujourd'hui pouvaient encore mobiliser un certain nombre de souvenirs relatifs à ces événements de 93. Parce que ces événements de 93 ont à mes yeux quelque chose de très très significatif dans la construction d'une image politique et d'une figure de leader gouvernemental comme ont pu l'être des gens comme Pasqua ou Sarkozy. Et effectivement, la stratégie que j'ai choisie a été d'imiter celle d'Eric Schmitt, c'est-à-dire de contacter les Berthiers d'aujourd'hui, qui sont des gens dont le nom donne accès à une sorte de panel du français moyen. Eux-mêmes en ont conscience. C'est la première des choses qu'ils vous répondent quand vous leur demandez pourquoi avez-vous été contacté par Eric Schmitt. Ils vous disent tous parce que notre nom ne veut rien dire, en quelque sorte. Notre nom est déjà immédiatement fictionnel. Il est toujours le représentant d'une sorte de France moyenne. Et c'est comme ça qu'il apparaît dans les fictions policières, par exemple. Et donc, effectivement, ce que j'ai choisi de faire, moi, c'est plus, je dirais, plus systématiquement qu'Eric Schmitt lui-même, d'appeler, de contacter tous les Berthiers de Paris. Il y en avait un peu plus de 130, au moment où je l'ai fait, en tout cas, c'est-à-dire durant l'hiver 2010. Et alors qu'Eric Schmitt, on ne sait pas combien il en a contacté, mais on suppose que ça n'excédait pas la dizaine. Et je leur ai soumis un questionnaire que j'avais écrit préalablement. Et puis ils ont répondu s'ils voulaient. Et donc j'ai fait des fiches sur chacune des conversations et chacune des réponses qui m'ont servi de base à la construction des portraits.
Et ces Berthiers, qui sont un panel de Français moyens, sont un biais, un moyen détourné pour aborder diverses questions. Les questions du questionnaire, mais à travers les questions du questionnaire, on va aborder ce sujet des 25 questions. Ouais. Les questions, c'est écrire un livre sur les Français, mobiliser, comment on mobilise des souvenirs, comment des Français moyens peuvent mobiliser des souvenirs, et troisième point, la construction d'une image politique.
Oui, alors il y a effectivement ces trois questions. Alors comment on mobilise des souvenirs? Il y avait une première question qui, moi, m'intéressait, c'était comment on peut se former une opinion concernant l'action d'un gouvernement relativement aux souvenirs que l'on a du passé et la manière dont le gouvernement s'est constitué, a constitué ses propres valeurs et donc ses propres, je dirais, directions d'action. Et en l'occurrence, ce qui apparaissait à mes yeux, c'est que l'affaire d'Eric Schmitt était fortement significative de ses valeurs, puisque par exemple, un certain nombre d'éléments qui sont apparus dans les discours de campagne de 2007 reprenaient un certain nombre de concepts qui étaient utilisés pour décrire ce qui s'était passé pendant la, la prise d'otage d'Eric Schmidt et comment cette prise d'otage avait été réglée, c'est-à-dire par la valorisation de telle ou telle attitude, en particulier le fait d'être rassurant, le fait d'être un leader, le fait d'être courageux. Alors cette histoire, à mon avis, était importante dans la mesure où elle permettait de resubstantialiser, ou comment on pourrait dire ça, refaire circuler d'une autre façon les concepts de courage, de leader, de confiance, d'être rassurant, donc de sécurité. Ce qui est intéressant dans ce genre d'affaires, c'est que lorsque l'on utilise une expérience collective comme ça, en l'enregistrant et en la matraquant, comme ça a été le cas avec cette histoire d'Eric Schmidt, qui était probablement le fait divers le plus réutilisé pendant les années 90 et le début des années 2000, qui a été réutilisé, réinterprété dans tout un tas d'émissions, disons, politiques et judiciaires. Ce qui était intéressant dans cette histoire, c'est de voir comment finalement tous ces concepts étaient trouvés dans l'affaire une nouvelle signification et un nouvel usage. Comment, derrière la monstration de telle ou telle attitude au cours de l'affaire d'Eric Schmidt, d'HB, de la prise d'otage, eh bien, par exemple, le terme de courage prenait un autre sens. Comment l'idée de sécurité pouvait trouver du sens par référence aussi à cette affaire. Comment l'idée, par exemple, qui a été utilisée par Pasqua à plusieurs reprises, l'idée qu'un ministre est quelqu'un qui doit savoir prendre de la distance, a été aussi resubstantialisée par référence à cette affaire. Je dirais que, vous voyez, pour les hommes politiques qui veulent instaurer un pouvoir en manipulant le langage, on peut imaginer deux tactiques possibles. La première tactique est bien connue. Elle a été l'objet de beaucoup de fictions, mais en particulier une qui est célèbre pour ça, c'est celle de George Orwell, de 1984. La tactique consiste à travailler sur la définition des mots et, en quelque sorte, effectuer par les moyens de l'archive et les moyens de la lexicographie un certain nombre de modifications dans les institutions du lexique, en particulier l'écriture du dictionnaire, par exemple, et l'écriture de l'histoire. Et on peut utiliser cet autre moyen que disons, je n'ai pas tellement vu encore analysé sur le plan fictionnel, qui consiste à ancrer un certain nombre de termes clés, de mots clés dans le lexique politique et en particulier pendant les campagnes, dans un certain nombre d'expériences concrètes, collectives, à forte valeur affective, à forte valeur émotionnelle, et très souvent reprises, ressassées, reprises en référence par les médias. Ce qui est le cas de ce qui s'est passé en 93. À chaque fois que 1993, la prise d'otage de Neuilly-sur-Seine par HB, c'est un événement qui sert de référence pour définir des modes d'action par la police. Et c'est un événement qui sert de référence maintenant pour référer à un certain type de valeurs morales et politiques comme courage, sécurité, je ne sais pas comment dire, le fait d'être leader charismatique, etc., professionnalisme, etc.
Et là, on aborde cette question importante des intentions politiques du livre, parce qu'il y a des circonstances de publication de votre livre, Lébertier, portrait statistique, à l'occasion des élections présidentielles. Alors, quelles sont les intentions politiques du livre? Pourquoi il est publié au moment avant les élections présidentielles?
Oui. Alors, le livre, oui, effectivement, il est sorti en mars, quelque temps avant les élections, à partir d'un calcul que j'avais fait en me renseignant, en posant des questions à mon éditrice, et enfin quelque chose d'assez bien connu, c'est expliqué d'ailleurs dans le livre, qui est que les livres que nous faisons, nous autres auteurs de littérature de recherche, sont des livres qui, en général, ont une durée de vie qui n'excède pas 2 mois sur les tables des libraires. Donc il fallait que ça sorte à peu près vers cette période-là. pour que ça puisse espérer fonctionner. En fait, que la stratégie du livre consistait simplement à instrumentaliser la littérature et de faire quelque chose comme une sorte de livre de campagne, un petit peu comme les journalistes font pendant les campagnes des livres, par exemple en infiltrant le Front National, ou des hommes politiques font des livres pour expliquer que leurs idées sont meilleures que celles des autres, etc. On voit ça fleurir partout chez les libraires en période de campagne. Et les Berthiers suivaient cette logique. Simplement, les Berthiers visaient une chose qui était le démontage du fonctionnement de l'idéologie de la droite contemporaine, en particulier de l'idéologie sécuritaire, et en particulier de leurs besoins de la manière dont ils constituent un chef, de leur besoin de chefferie, en fait. Je m'étais rendu compte, en voyant la campagne se mettre en place, que à droite, on a besoin d'un homme charismatique, d'un homme courageux, d'un homme qui soit un chef, d'un homme qui soit rassurant. On utilisait même d'ailleurs cette idée-là pour vilipender les autres candidats, et en particulier les candidats qui n'avaient pas qui ne portaient pas en eux ces critères. Et parmi les candidats qui ne portaient pas ces critères, il y en avait deux, moi, qui me semblaient remarquables, qui me semblaient ni courageux, ni volontaires, ni charismatiques, et qui avaient toute mon affection. Enfin, surtout le premier, c'était Poutou, et le second était Hollande. L'un n'était pas volontaire, disons, l'autre, enfin, pas volontaire au sens où il semblait bouder l'activité de campagne, et l'autre était toujours présenté comme mou et fuyant, donc tout à fait le contraire des valeurs de chevalier défendues par la droite. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir dans quoi ça s'ancrait, cet imaginaire-là, qui est un imaginaire, oui, qu'on peut rattacher à un imaginaire aristocratique, mais que je voulais, moi, reconstituer par rapport à cet événement-là, parce que c'est cet événement-là qui avait servi en 2007 à illustrer ces valeurs. On voyait surgir un peu partout sur Internet des vidéos où les termes de leader, de rassurant, de charismatique, de chef et de courageux apparaissaient en sous-titres ou en gros titres, illustrant des discours de Sarkozy concernant la prise d'otage de 93, ou encore même des documents d'archives, par exemple des images qui ont été prises par les pompiers. Il y avait donc cette volonté-là de produire un livre, si vous voulez, de déconstruction du sarkozysme, en prenant comme, ou ce qu'on pourrait appeler la droite contemporaine, la droite UMP, en prenant comme entrée quelque chose qui serait le double de Sarkozy, Eric Schmitt alias HB, qui est son double doublé, en quelque sorte, l'homme qui a été doublé par Sarkozy, l'homme qui a permis à Sarkozy de se construire une image puissante de chef archaïque comme la droite le vénère, et qui en quelque sorte a été sacrifié après coup au grand bénéfice de cette droite là. Voilà.
Oui, mais voilà, Christophe Hanna, votre livre ne se réduit pas seulement à ça. C'est pas un livre de société, il s'agit pas d'un essai sociologique, on est dans un travail théorique, de théoricien, de pratique de littérature, d'expérimentation. C'est un livre avec un dispositif fort, avec un dispositif puissant, avec un dispositif très contrôlé. J'aimerais qu'on aborde maintenant cette question, la question du dispositif.
Oui, alors effectivement, on peut décrire ce livre comme ça, c'est-à-dire que c'est un livre qui déploie une procédure dans le temps, qui cherche à faire circuler un objet et à l'implanter dans un contexte de manière à ce qu'il produise un certain type d'effet. Ici, à mon avis, ce sont des effets descriptifs et puis aussi peut-être des effets de réflexion sur ce que c'est que prendre une décision quand on vote, qu'est-ce que c'est qu'une croyance, quelle relation il peut y avoir entre ce que l'on croit et ce que l'on dit quand on donne son opinion, en gros entre la croyance et l'opinion énonçable dans les contextes qui sont ceux dans lesquels on l'énonce dans les démocraties contemporaines, c'est-à-dire essentiellement le contexte dans lequel nous sommes actuellement, c'est-à-dire l'enquête téléphonique. On répond à des questions de quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui se présente un soir au téléphone. Alors le dispositif, c'était celui-là, hein, Moi, ce que je cherchais à produire, c'était une photographie de, une vision de ce que ça peut être l'expression d'une opinion en relation à des croyances que l'on peut avoir. Et donc pour ça, le livre fonctionne comme une sorte de synthèse de la façon dont on peut exprimer son opinion sur des questions clés, à mon avis clés, de la politique et de la morale. Alors j'ai procédé de la façon suivante. Il a fallu, comme j'ai appelé 130 personnes, il a fallu trouver une solution pour synthétiser ces avis. La solution a été, dans un premier temps, de faire comme s'il était, si l'on pouvait prendre au sérieux la stratégie statistique, comme si elle pouvait avoir un sens lorsqu'on s'en sert pour produire des portraits, c'est-à-dire synthétiser l'ensemble des croyances d'une personne par un moyen statistique de comparaison. En gros, démarrer le portrait de chacun des Berthier parce qu'il est le seul à dire, et avancer en développant les idées les plus fréquentes parmi celles qu'il dit. Donc chaque portrait fonctionne comme ça et commence donc avec les propos les plus singuliers sur un problème et se développe petit à petit vers le plus banal. En gros, les dernières phrases énoncées sont des phrases que tous les Berthier ont pu dire ou penser. Le livre synthétise comme ça l'ensemble des propos. Et alors, ce que l'on constate, du coup, c'est de l'incroyable, d'incroyables effets d'incohérence, en fait, de contradiction entre ce que les gens disent, croire, et ce que les gens croient vraiment et expriment à propos de sujets similaires. Pour prendre un exemple, sur la question du courage, qui est la question centrale autour de laquelle tourne le propos du personnage qui s'appelle Nicole. Vous voyez par exemple Nicole dire que elle considère l'action gouvernementale en 93 excellente, que c'est une réussite. Cependant, quelques lignes plus loin, quand vous demandez à la plupart des Berthier et même à Nicole, sur ce plan-là, elle est d'accord avec presque tous. Est-ce que vous lui demandez quelle a été l'action la plus courageuse qu'elle pourrait citer ces 20 dernières années, elle n'en trouve aucune. Alors je lui demande d'étendre un peu l'intervalle et d'aller jusqu'à ces 40 dernières années. Là, elle en trouve une. Et celle qu'elle trouve, c'est l'abolition de la peine de mort. Voilà, on se retrouve face à des choses comme ça. Le livre montre à quel point m'a mis en face de ça, c'est-à-dire des tensions très grandes entre l'expression idéologique et l'expression réelle telle qu'elle peut transparaître lorsque l'on regroupe les réponses de façon statistique dans une situation de relation téléphonique d'enquête. Voilà.
Nous parlons des Berthier à l'émission de littérature avec Christophe Anna. Christophe Anna, je vous propose la lecture d'un deuxième extrait.
Oui, alors, je vais lire en fait un extrait de la veuve de Roland. C'est là donc le personnage qui parle à Roland, la lettre R, dont l'entrée sur l'annuaire téléphonique est Roland, mais qui en réalité n'est pas Roland. Mais sa femme, Roland, est mort. Donc je lis un petit morceau de Roland. Pendant mon enfance, mon père se réveillait la nuit en hurlant. Il rêvait des tranchées et qu'il était enseveli. Quand j'étais tout enfant, nous allions dans le nord. Je devais avoir 8 ans au plus. Les paysans labouraient et le long des champs, il y avait des casques et des boucles. Place de la République, il y avait un homme, une gueule cassée. C'était un homme orchestre. Mon père me donnait de l'argent pour lui en me disant « Tu y vas, tu le lui donnes avec le sourire ». Avec Nicole II, David et Pierre Lyon-Camp, l'ex-procureur de la République qui a tenté de négocier avec HB sa reddition, Je fais partie des moins de 2% d'entre nous capables de décrire des souvenirs provenant d'un âge inférieur à 4 ans. Les autres, quand ils peuvent en évoquer, pensent, comme Sandrine et Timothée, qu'ils sont parasités par des témoignages familiaux ou des photos. Pour David et Nicole, qui, elles, en dénombrent 3, il s'agit plus d'ambiances propres à certains lieux, avec la certitude de pouvoir les reconnaître, ou encore de sensations, par exemple, l'élan d'une balançoire, l'étourdissement léger que provoque le panorama d'une ville vue d'une terrasse surplombante, l'odeur d'un jeune chien dormant dans un coffre sur un vieux sac de pommes de terre. Pierre Lioncamp pense qu'on conserve certaines images dans la mémoire en fonction des événements qui suivent, qui, eux, sont déterminants, mais auxquels on n'assiste pas forcément. Lui a en tête le visage de sa mère, qui le gronde pour une bêtise, et il sait qu'elle est décédée peu après. Il revoit du balcon les fumées qui s'élèvent juste après le bombardement par les Alliés des usines de Renault de Boulogne-Billancourt. Il est dans les bras de son père, qui sera arrêté et déporté plus tard à Drancy en août 1943. Ce bombardement a eu lieu en mars 1942. Je venais donc d'avoir 3 ans, nous écrit-il.
Merci Christophe Hannah. On sent bien, à la lecture de cet extrait, le dispositif du livre. Dispositif du livre qui tient notamment aussi à son mode d'écriture, avec une stratégie statistique, ce dont vous nous parliez avant notre petite pause musicale. J'aimerais que l'on aborde cette question essentielle du mode d'écriture dans ce livre Lébertier, qui passe par l'énonciation des propos rapportés par des Bertiers que vous avez eus au téléphone. Pourquoi avez-vous décidé de rapporter les propos des Bertiers?
Alors, oui, ce qui m'intéressait, moi, pour ce livre, ce que je voulais comprendre, en fait, c'est comment les propos d'un sujet, une sorte de théorie que les gens ont en tête, les caractérisent, construisent des sortes de réseaux de ressemblances, de communautés, comment elles déterminent un sujet dans une... statistiquement, c'est-à-dire dans une masse, quantitativement. Et donc, pour moi, l'important, c'était de rapporter le propos de chaque sujet corrélativement à un ensemble ou à des groupes repérables par des étiquettes statistiques, c'est-à-dire de pourcent, 30%, 40%, jusqu'à le plus de pourcent à la fin du texte. Pour que la statistique fonctionne en littérature, l'intérêt, à mon avis... La possibilité, celle que j'ai trouvée en tout cas, c'était d'utiliser comme outil la comparaison. Parce que ça n'est pas très significatif de dire uniquement que, comme 20% d'entre nous, Bertier, j'ai des souvenirs en deçà de 4 ans. Oui, c'est un certain intérêt, peut-être pour les sciences psychologiques, mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est de voir quel type de souvenir, comment il s'énonce, avec quel vocabulaire, comment il se corrèle à ce qui a été énoncé auparavant, par exemple les discours sur le suicide, au travail, ou les discours sur, le courage, comment on est courageux, est-ce qu'on se bat, est-ce qu'on se bat pas, qu'est-ce que le courage physique, quelles sont les qualités qu'on attend d'un artiste, etc. Toutes les questions qui étaient posées. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de montrer comment la mémoire travailler avec le contexte de discussion. Alors, tout ça occasionne un ordonnancement, une organisation statistique et simultanément comparative, ce qui fait que ce livre, finalement, va un peu obligé à développer des outils de comparaison nouveaux pour moi, c'est-à-dire la comparaison d'idées, la comparaison statistique d'idées, la comparaison quantitative d'idées. Là, en l'occurrence, dans l'extrait que j'ai lu, ce qui est comparé, c'est la manière dont les gens croient ou pas se souvenir et comment ils se souviennent de choses très anciennes. Par exemple, Pierre Lioncamp, c'est un monsieur qui est assez âgé maintenant, c'est un magistrat à la retraite. Il a de très très anciens souvenirs qu'il énonce dans un certain ordre, qu'il aussi énonce de façon plus ou moins pudique. Ça a été très difficile qu'il accepte de... très difficile, ça a été un très long échange pour qu'il accepte de laisser paraître ça. Donc et c'est dit ça aussi dans le livre par la suite. Le statut, si vous voulez, de l'énoncé, sa relation, la valeur qu'il peut avoir avec le sujet, ce sont des éléments qui m'importaient et que je ne pouvais énoncer qu'en première personne, que relativement à une subjectivité qui s'affirme. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, dans ce texte, sont utilisées essentiellement les deux premières personnes, le « nous » qui permet la comparaison quantitative des opinions, et le « je » par la voix qui synthétise, disons, les positions variables du sujet qui s'exprime et à qui je parle au téléphone, et qui d'ailleurs porte le titre de chaque portrait, enfin dont le nom est constitue le titre de chaque portrait.
Ce travail a nécessité une enquête rigoureuse, presque comme une enquête journalistique. Or, ce n'est pas une enquête journalistique. Qu'est-ce qui différencie votre livre, Les Berthiers, d'une enquête journalistique? Ça aurait pu être une enquête journalistique. Il ne faut pas oublier que c'est signé la rédaction. Alors, la rédaction, c'est vous, Christophe Hanna. Mais voilà, vous employez le terme la rédaction comme signataire. Donc, la rédaction, ça a quand même une consonance journalistique. Vous avez mené cette enquête presque comme une enquête journalistique. Or, le rendu n'a rien à voir avec une enquête journalistique.
Bon, alors il y a plusieurs points dans la question que tu poses là, Dominique. D'abord, je reviens sur la rédaction. La rédaction, effectivement, c'est une allusion, disons, à une certaine posture prétendument neutre du journaliste. Et je dirais, ça s'arrête là. La rédaction aussi, pour moi, c'est essentiellement rédiger contre écrire, c'est-à-dire contre une certaine idéologie de l'écriture, de l'individu qui crée, du créateur subjectif, seul devant son bureau, devant son ordinateur, dans son bureau, et qui s'isole, qui pense d'ailleurs l'écriture finalement dans une sorte de prolongement ou de préfiguration d'une relation esthétique au texte qui elle-même est isolée, désintéressée de la vie pratique, etc. Pour moi, la rédaction, c'était annoncer quelque chose qui serait autre chose comme conception de l'écriture, rédiger versus écrire. Et rédiger, ça présuppose une sorte d'ancrage dans la réalité du monde et d'ancrage aussi ou de prise de conscience des réalités de la lecture telle qu'elle s'effectue dans le contexte pratique. Ça, c'était un premier point. Deuxième point, c'est que la rédaction, c'est le nom d'auteur qui apparaît sur le livre. Et ce n'est pas Christophe Hanna dans la mesure où je signe des textes Christophe Hanna, je signe des textes Christophe Hanna qui sont des textes qui sont écrits différemment que celui-là. La rédaction, ça renvoie à tous ces gens qui ont participé, qui m'ont aidé à écrire en me faisant des dessins, en me donnant des indications, en me laissant enregistrer leurs propos, en écrivant même des morceaux entiers, par exemple des commentaires sur certaines lettres que j'ai pu avoir à rédiger pour écrire ce livre. La rédaction, c'est aussi d'une certaine façon, contient aussi, par exemple, Simon Babre, qui est l'homme qui écrivait des lettres pour Nicolas Sarkozy, lorsqu'on lui faisait des demandes de façon régulière pour obtenir de lui des rendez-vous, et qui d'ailleurs dont le texte est publié intégralement dans le livre. Donc c'est cet ensemble de participants, ou comme on pourrait dire ça, de contributeurs finalement, que j'appelle la rédaction. Évidemment, c'est comme si j'étais un peu une sorte de chef d'orchestre, ou plutôt de réalisateur cinématographique, je donne un peu l'orientation. Mais la rédaction, c'est tout ce monde-là. Autrement dit, je ne suis pas le rédacteur comme un rédacteur dans un journal. Vous voyez, je ne peux pas signer mon article, Christophe Hanna. C'est la première différence, peut-être, sur le plan de la méthodologie rédactionnelle. La deuxième grande différence avec les journalistes, c'est que, bon, moi, je ne m'intéresse pas du tout aux mêmes objets qu'eux. Par exemple, la réalité des faits, rétablir la vérité de ce qui s'est passé en 93 à la maternelle, était absolument pas mon objet, alors que c'était l'objet d'à peu près tous les journalistes qui ont écrit là-dessus. Les journalistes cherchent à rétablir une vérité historique, ou à livrer des scoops, des vérités cachées, par exemple. Ou alors, quand c'est pas le cas, ils cherchent à rétablir ou à révéler, par exemple, ou un certain nombre de d'impressions subjectives qu'on a peu dont on a peu tenu compte, et que ça correspond encore à révéler une vérité cachée. C'est le cas par exemple du livre qui a été écrit avec l'institutrice, hein, qui a été baptisée l'institutrice Courage, Mademoiselle Dreyfus, qui est restée avec les enfants lorsqu'Eric Schmidt les avait pris en otage. Ma stratégie à moi, c'était pas du tout ça. Ma stratégie à moi, c'était de trouver une forme, d'inventer une forme et un dispositif qui permettent de rendre compte de la façon dont on mobilise les souvenirs et comment on peut exprimer quelque chose qui serait un progressif oubli collectif et dynamique, je dirais, un oubli au sens actif du terme, un oubli au sens actif dans le sens où, je dirais, les sujets qui parlent, les Berthiers qui parlent, produisent leur oubli ou sont dans un contexte dans lequel leur oubli fait partie d'une sorte de mécanique collective construite délibérément, collectivement. L'oubli est un dispositif. Et l'oubli, c'est pas l'effacement, ou ça n'est pas que l'effacement. Je veux dire, ça n'est pas que l'effacement même de ce à quoi on a assisté médiatiquement. C'est aussi la transformation des choses, de remplacement d'images ou de propos par d'autres, l'accentuation de certains aspects, la minimisation d'autres, progressivement dans le temps, s'effectuant dans le bain médiatique dans lequel on est, qui a pour effet, par des effets de corrélation, d'insistance, de mettre en valeur un certain nombre de choses, d'effacer certaines choses, etc. Donc le livre essaie de montrer ce processus-là à l'œuvre, par la manière dont se prononce, se corrèle les réponses aux questions que je peux faire relativement à cette prise d'otage. Après, si on peut parler de méthodologie ou déontologie, moi je n'ai rien à voir ni avec un journaliste, ni avec un sociologue ou un anthropologue ou quelqu'un qui viendrait des sciences humaines. Je dirais que je construis tout sur le tas et dans la continuité et la durée même de l'enquête. Les choses se constituent, rien n'est, il n'y a pas de déontologie a priori. J'avoue que je n'ai pas de scrupules à tirer des informations des gens. Je fabrique des faux sites internet ou des faux Facebook dans lesquels je suis rassurant pour pouvoir obtenir des informations. Je pense d'ailleurs que c'est comme ça qu'on s'informe et c'est comme ça qu'on échange des propos utiles entre nous. Il y a une sorte de marché comme ça de la fausse face, en quelque sorte, qui est une chose naturelle. Je n'ai pas de patte blanche obligée. Enfin, je ne me sens pas obligé à ça. Et rien dans ma méthode, autant que dans mes techniques d'écriture, n'appartiennent a priori à des méthodologies propres à ce que l'on enseigne, en tout cas dans les universités en anthropologie ou dans les sciences humaines. Mais cela dit, pour avoir discuté avec certains anthropologues, je ne suis pas très sûr qu'il existe quoi que ce soit comme une sorte de déontologie fixe dans l'écriture anthropologique non plus. La grande différence, c'est que peut-être que pour moi, peut-être plus que chez la plupart des auteurs des sciences humaines, l'écriture, l'idée d'écriture a un sens, et que je fabrique un véritable dispositif d'écriture qui n'est pas une simple consignation de phénomènes. Pour moi, le récit n'est pas quelque chose de neutre, et c'est la raison pour laquelle j'ai... et ni le livre, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle je fabrique des livres de cette façon-là, visant un contexte qui les dénaturalise, en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle je produis des dispositifs narratifs tels que celui-là.
On a bien compris que ce n'est pas une enquête journalistique, ni un livre d'anthropologie, ni un livre de sociologie, mais un livre où il y a une présence théorique, une présence d'une matrice littéraire, d'une matrice fictionnelle. Comment on peut définir, du coup, votre livre ? Qu'est-ce que c'est que votre livre ? Comment ça se définit ?
voulais dire, est-ce que je peux utiliser une étiquette générique disponible dans les poétiques ambiantes pour le caractériser? C'est ça, en fait, la question. Hein.
Oui, par exemple. Est-ce que ça, dans quel domaine de savoir votre livre appartient? Il appartient à quel domaine de savoir? À quelle discipline? Parce que c'est ça qui produit pour moi une excitation incroyable dans votre livre.
Alors, bon, disons, étant donné qu'il est constitué librement, hein, détaché de toute espèce de discipline, puisque moi, même si je suis un produit de l'université, je ne fabrique pas ce livre, disons, dans le cadre d'un travail universitaire. Ce livre n'est donc pas contrôlé. Il n'est en quelque sorte que... Il n'est sanctionné que par son éditeur, mais il n'est pas... Sa méthodologie n'est pas contrôlée, il n'y a pas de critères destinés à valider ou pas les éventuelles informations qu'il communique. Donc bon, sur ce plan-là, on peut pas dire que ce livre s'inscrit simplement dans un corps de savoir institué, stable. Ça, c'est certain. On peut maintenant évidemment faire des comparaisons. On peut dire qu'il serait éventuellement comparable par certains points à un certain type d'écriture, par certains aspects, puisqu'il parle de quantité. On peut dire qu'il s'apparente à une certaine forme de sociologie. Puisqu'il parle de morale, on peut dire que par certains aspects, il s'apparente à certaines réflexions de l'ordre de, disons, du discours philosophique éthique. Puisqu'il véhicule un certain nombre de théories ambiantes et surtout qu'il réfléchit sur la manière dont elles se constituent relativement à des problèmes de mémoire, on peut dire qu'il s'intéresse, qu'il est lié à des questions de psychologie. Bon. Je dirais, moi, qu'il appartient à quelque chose comme, disons qu'il est aversé au sens... Il est aversé dans une sorte de réservoir de savoir potentiel. Voilà ce qu'on pourrait dire de lui, qu'il appartient à des formes de savoir potentiel, qu'il est susceptible d'être mobilisable et exploitable par des corps de savoir présents et futurs, au gré des problèmes publics qui pourront se poser et qui pourront l'intéresser, qui pourront être connectés à ce qu'il montre. Voilà ce que je dirais. D'une certaine façon, il est un petit peu comme certaines œuvres d'art qu'on laisse dans des galeries, que l'on regarde comme des œuvres d'art, et qui fournissent des informations qui, un jour, s'avèrent extrêmement utiles, et qu'à ce moment-là, on essaie de les intégrer, on essaie de s'en servir comme manière de concevoir telle méthode pour archiver, ou telle mise en forme pour mieux voir ce que l'on sait déjà, ou encore tel concept pour mieux désigner telle réalité que l'on compte étudier d'un point de vue scientifique, institué, constitué. D'une certaine façon, si on le compare, on pourrait peut-être le comparer, je ne sais pas, hein, je vais donner des exemples très immodestes, mais je dirais qu'on pourrait le comparer à qu'a pu faire Michaud quand il essayait de travailler dans le domaine de la représentation de l'effet des psychotropes avec des scientifiques. C'est-à-dire qu'il produisait quelque chose qui n'appartient pas au savoir constitué, mais qui est susceptible d'intéresser un savoir constitué futur, dont le nom n'existe peut-être pas encore, et qui, au moment de Michaud, était... Donc peut-être que ce qui était visé, c'était plutôt une réforme du savoir psycho et psychiatrique présent, enfin qui lui était contemporain, disons. Voilà.
Et est-ce que ce réservoir de savoir potentiel, c'est une belle expression que je retiens, réservoir de savoir potentiel, et est-ce que seul quelqu'un qui pratique la fiction, qui pratique la littérature, qui la théorise, peut fabriquer un objet de cette sorte-là?
ce serait une vision... est-ce que seule la littérature, est-ce que seule la fiction, ce serait une vision, j'aurais envie de dire, très, très, très aristotélicienne de la fiction. La fiction, je pense que... Je n'en sais rien. Ce que je peux constater, moi, dans ma pratique de lecteur, c'est que c'est cette dimension-là de la fiction qui m'intéresse essentiellement. C'est cette dimension que j'aurais envie d'appeler dispositale de la fiction. C'est-à-dire lorsque la fiction est à ce stade, finalement, de savoir considéré comme inférieur ou pas tout à fait encore pris au sérieux, mais qui présente un certain nombre de traits tels qu'elle peut s'imposer, qu'elle peut imposer en quelque sorte un certain nombre de concepts. Elle peut imposer certaines manières d'organiser, de mise en forme. Elle peut rendre disponible un certain nombre de manières de faire pour nous, pour les sciences, pour savoir. On peut dire que la fiction, dans ce cas-là, devient quelque chose comme un espace d'expérimentation, de formes de connaissances qui peuvent être validées, récupérées ou au contraire laissées dans ce réservoir-là.
Christophe Hanna, la 15e question que vous avez posée au Berthier, c'est celle-ci. Et c'est la question que je vais vous poser de manière un petit peu biaisée. Cette question que vous avez posée au Berthier, la numéro 15, sur 25 questions, c'est celle-ci. Quelles sont les trois qualités principales dont doit faire preuve un homme politique? On biaise cette question, je ne vous la pose pas, je vous pose la deuxième question que vous leur avez posée. Sont-elles valables pour un écrivain? Quelles sont les trois qualités principales pour un écrivain?
Alors oui, ça c'était aussi une des questions qui, disons métathéoriques qui m'intéressaient dans ce livre. Je me demandais s'il pouvait y avoir une relation dans l'image de l'auteur et l'image de l'homme politique, puisque il me semble on vit encore beaucoup avec une conception, surtout pour les gens qui pensent à l'écriture, à l'invention, etc., avec une conception un peu romantique de l'auteur. Ça, je crois que la conception romantique est quelque chose qui est toujours bien présente dans les esprits et dans l'imaginaire métalittéraire. Cette collusion entre le politique et le poète est évidemment quelque chose de très fort dans le romantisme français. Et donc voilà, d'où la question. Quelles sont les qualités donc d'un homme politique? C'était bon, j'ai obtenu des réponses. Je crois que vous avez lu ça, hein, les réponses qui venaient le plus fréquemment. C'était la sincérité et l'honnêteté, c'était donné en premier. Et puis secondairement, mais quand même avec une très forte proportion, et sur ce plan-là, c'était d'ailleurs, d'une certaine façon, les gens qui avaient exploité l'affaire ont fait mouche. C'était le courage. Les trois me semblent liés, d'ailleurs, c'est Michel Foucault qui les a mis en relation en parlant du courage de la vérité, qui est en fait le courage de la sincérité, d'une certaine façon. Bref, en tout cas, vous voyez, c'était ce trio gagnant qui apparaissait c'est pas très surprenant, mais ça apparaissait, et c'était légitimé ou justifié par tout un tas de raisons, par les Berthiers. Alors pour les écrivains, oui, évidemment, une certaine forme de courage, bien sûr, mais qui n'est pas le courage physique de Sarkozy, ou en tout cas prétendu de Sarkozy, à l'époque. Beaucoup d'entre eux le disent aussi, beaucoup parmi les Berthiers immédiatement pensent à ça, parce que un écrivain, disons, prend le risque de se disqualifier en disant ce qu'il fait. Bon, évidemment, voilà, c'était la raison principale qui était donnée, puis parce qu'un écrivain prend le risque de se déclasser aussi, le risque d'être une sorte de marginal. Donc évidemment, on pense tout de suite à cette qualité-là. Après, moi, j'en sais trop rien. J'ai tendance à croire que les écrivains que j'aime ont été des gens courageux. Je dois dire que c'est pas la qualité principale que je vois autour de moi chez les écrivains. Je veux dire que c'est une qualité qui est souvent absente. Mais bon, c'est une qualité idéale. Alors sur ce point-là, les deux philosophes que j'avais vraiment en tête quand j'écrivais Les Berthiers sont vraiment à l'opposé. Je sais que Wittgenstein considère que le courage, c'est une qualité essentielle pour écrire de la philosophie et dire des choses vraies. C'est en tout cas ce qu'il écrit lui-même dans ses remarques mêlées. Et Michel Foucault dit le contraire. Il dit, mais non, vous voyez, moi qui suis professeur, je peux vous dire qu'on n'a pas besoin d'être courageux pour faire ça.
Nous terminerons donc sur cette ambiguïté, cette dualité.
Oui.
Merci beaucoup, Christophe Hanna, d'avoir répondu à mes questions.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Bonne soirée.
Bonsoir.
Nous